L'affaire Charles Dexter Ward par Howard Philip Lovecraft. Chapitre 1, résultat et prologue. Un personnage singulier s'est échappé récemment d'une clinique psychiatrique de Providence. Il s'appelait Charles Dexter Ward et fut interné à la demande de son père, terrifié par la progression d'une maladie mentale qui avait évolué de simples excentricités vers une démence furieuse dont on pouvait même craindre les dérives meurtrières. Les médecins avouent être totalement déconcertés par son cas qui présente des aspects psychologiques aussi bien que physiologiques. Tout d'abord, le patient semblait sensiblement plus âgé que ses 26 ans. Il est vrai que les désordres mentaux ont tendance à vieillir un peu ceux qui en sont atteints, mais le visage de ce jeune homme avait une apparence de sagesse ironique que seuls ceux des vieillards acquièrent avec le temps. Ensuite, son organisme fonctionnait d'une façon dissonante, totalement inconnue dans les annales de la médecine. La respiration et le cœur souffraient d'un manque évident d'harmonie. Il avait perdu sa voix et n'était plus capable que de chuchoter. Sa digestion était lente et difficile, et ses réflexes aux stimuli traditionnels ne correspondaient en rien ni à ceux d'un homme en bonne santé, ni à ceux d'un malade souffrant d'une pathologie connue. Sa peau, froide et parcheminée, ressemblait à une maille mal tricotée et un peu relâchée. Une tache de naissance de couleur olive qu'il avait à la hanche avait disparu, cependant qu'une curieuse marque noire s'était formée sur sa poitrine. Enfin, les médecins ont tous noté un ralentissement inexplicable et sans précédent de son métabolisme. Du point de vue psychiatrique, le cas Ward n'était pas banal non plus. Sa folie ne se rapportait à aucune psychose connue ni décrite, même dans les traités les plus récents. Elle allait de pair avec une volonté hors du commun qui aurait pu faire de lui un génie ou un meneur d'hommes si elle n'avait bizarrement dégénéré en une névrose grotesque. Le docteur Willett, médecin de la famille Ward, affirme même qu'en dehors des domaines où la folie se manifestait, les facultés intellectuelles du jeune homme avaient décuplé depuis sa crise. Charles Ward fut toujours un érudit et un archéologue averti. Pour autant, même ses travaux les plus brillants ne sont jamais parvenus au niveau de pensée et de finesse d'esprit qu'il a démontré au cours de ses examens psychiatriques. Il fut d'ailleurs assez compliqué de le faire interner, tant son esprit semblait vif et lucide, et ce n'est que grâce à quelques témoignages et aux lacunes tout à fait anormales dans ses connaissances qu'il fut finalement enfermé. Jusqu'à sa disparition, il resta un lecteur vorace, et malgré sa voix chuintante, sa conversation demeura brillante, si bien que plusieurs observateurs avisés, qui n'avaient certainement pas imaginé son évasion, avaient prédit qu'il ne resterait pas longtemps dans la clinique du docteur Waite. Le docteur Willett, qu'il avait mis au monde et vu grandir, semblait s'inquiéter de cette perspective. Il avait eu une mésaventure terrible et fait une découverte si effrayante qu'il n'osait s'en ouvrir même à ses collègues dont il redoutait le scepticisme rationnel. Le rôle exact de Willett dans cette affaire n'est pas très clair. Il fut le dernier à voir le patient 3 heures avant son évasion. Et plusieurs témoins ont rapporté qu'à la fin de cet examen, il est sorti de la chambre avec une expression à la fois d'horreur et de soulagement. L'évasion de l'hôpital du Dr. Waite est une énigme totalement inexplicable. Dans la chambre de Ward, il n'y avait qu'une seule fenêtre, ouverte certes, mais située au 6e étage. Pourtant, après son entretien avec Willett, le jeune homme avait bel et bien disparu. Le médecin n'a aucune explication satisfaisante à proposer, quoique curieusement, il semble soulagé. Peut-être en dirait-il davantage s'il ne craignait que ses propos ne fussent tournés en dérision. En entrant dans la chambre, il avait bien trouvé Ward, mais peu après son départ, les infirmiers qui frappèrent à la porte n'obtinrent pas de réponse. Quand ils finirent par entrer, le patient s'était envolé. Il n'y avait qu'un nuage de poussière bleutée qui lui fit tousser avant d'être dispersé par la brise glaciale d'avril. À un moment, les chiens avaient bien aboyé, mais c'était pendant la visite de Willett. De toute façon, ils n'avaient poursuivi personne et s'étaient rapidement calmés. Le père de Ward, averti immédiatement par téléphone, se montra plus triste que surpris. Lorsque le docteur Wade vint lui rendre visite, il avait déjà parlé avec le docteur Willett. Cependant, le père et son médecin nient toute complicité, fût-ce passive, dans cette évasion. Des amis intimes de M. Ward et du docteur Willett ont livré quelques explications, mais elles sont beaucoup trop invraisemblables pour que l'on puisse y croire. Toujours est-il qu'un fait demeure. Charles Ward a bel et bien disparu sans laisser la moindre trace. Depuis sa plus tendre enfance, il était passionné d'histoire. Un goût qui lui était venu de sa vénérable ville, qui regorge de vestiges du passé, ainsi que des superbes antiquités que ses parents accumulaient dans leur demeure de Prospect Street. Avec les années, ce penchant s'affirma si bien que l'histoire, la généalogie, l'architecture, le mobilier et l'artisanat coloniaux devinrent ses seuls centres d'intérêt, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut comprendre sa maladie. Ainsi, les lacunes considérables que, grâce à un interrogatoire adroit, les psychiatres ont mises en lumière se rapportent tout au monde moderne et sont compensées par un excès de connaissances historiques, de sorte que l'on pourrait presque imaginer que le patient s'est transporté dans une époque antérieure par quelque mécanisme d'auto-hypnose. Le plus curieux est que Ward ne semble plus du tout intéressé par les antiquités qui le passionnaient tant, et que tous ses efforts sont maintenant tournés vers la connaissance du monde moderne qui lui fait tellement défaut. Il a fait de son mieux pour dissimuler ses carences, mais tous ceux qui l'ont examiné ont été frappés par le fait que ses lectures et ses conversations soient totalement orientées vers la compréhension de son siècle, alors qu'il est né en 1902 et qu'il a étudié dans les meilleures écoles. Les psychiatres se demandent d'ailleurs comment, dans ces conditions, il fait pour affronter le monde extérieur depuis qu'il s'est évadé. De la vie générale, il doit sans doute adopter un profil bas dans une situation très modeste, en attendant d'être complètement informé sur son environnement. Les psychiatres sont en désaccord sur la période à laquelle les désordres mentaux de Charles Ward sont apparus. Le docteur Lehman, qui fait autorité à Boston, penche pour 1919-1920. À cette époque, le jeune homme qui étudiait au lycée Moses Brown cessa brusquement de s'intéresser à l'archéologie qui était toute sa vie pour se consacrer à l'étude des sciences occultes. Il refusa même de passer l'examen d'entrée à l'université, au motif que ses recherches personnelles étaient beaucoup plus importantes. C'est également à cette époque qu'il consacra un temps considérable à compulser les registres municipaux et à visiter les cimetières à la recherche d'une tombe creusée en 1771, celle d'un ancêtre nommé Joseph Curven, dont il avait découvert certains documents derrière les boiseries d'une vieille demeure d'Olney Court qui, semble-t-il, lui avait appartenu. Il est indéniable que l'hiver 1919-1920 constitue un tournant dans le comportement de Charles Ward. Cependant, le docteur Willett n'est pas du même avis que son confrère, fondant son diagnostic sur la connaissance intime qu'il a de son patient, ainsi que sur certaines investigations assez éprouvantes qu'il a menées à son sujet. Il a découvert des choses qui l'ont marqué à un point tel que sa gorge se noue encore quand il en parle, et qu'il ne peut les mettre par écrit sans que sa main ne se mette à trembler. Willett admet que le changement radical de comportement apparu en 1919-1920 pourrait marquer le commencement d'une détérioration mentale qui évoluera vers la démence en 1928, mais sa connaissance du cas l'amène à se garder de toute conclusion hâtive. Sans doute le jeune homme a-t-il toujours été psychologiquement fragile, tantôt susceptible, tantôt enthousiaste, mais il se refuse à voir dans sa métamorphose un quelconque basculement dans la folie. Il pense au contraire que Ward, comme il l'affirma, fit réellement une découverte effrayante et formidable, et que les troubles n'apparurent que beaucoup plus tard, après la découverte du portrait et des manuscrits, après ses voyages vers des destinations étranges, après les invocations dont il a parlé, après la lettre de désespoir qu'il a adressée au médecin, après la vague de vampirisme et les rumeurs au village de Potuxet, après enfin que sa mémoire se fût altérée et son aspect physique dégradé. C'est à ce moment-là, insiste Ouellette, que le cauchemar a commencé pour Charles Ward.